Je vais encore prier. Seigneur, on te remet ce moment et on te demande que tu touches nos cœurs, que tu nous parles, que ce soit un moment qui soit réellement de la nourriture pour nos âmes, qui soit encourageant, qui nous reprenne si nécessaire aussi et qui nous conduise sur ce que tu as préparé pour nous. Merci pour la possibilité d'être ensemble ce matin, pour cet endroit où on peut se retrouver et surtout pour chaque personne qui est là, Seigneur. Amen. Cette semaine, j'ai terminé la relecture d'un manuscrit que j'ai envoyé à l'éditeur et qui s'appellera peut-être, je ne sais pas parce que le titre après, ce n'est pas toujours moi qui maîtrise, mais actuellement dans mes pensées, il s'appelle « Rencontre avec le patron » avec un P majuscule. Le patron est un Jésus et c'est que des histoires de l'évangile que j'ai réactualisées un petit peu. Et ce qui m'a intéressé, c'est ça fait 2 ans que je travaille là-dessus, à peu près un peu plus de 2 ans, de prendre une histoire dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles plus précisément, hein, une rencontre avec Jésus, et d'essayer de remettre de l'humanité, de la chair, de la vie dans ces récits. Parce que nous, voilà, un aveugle vient, il voit Jésus, Jésus le guérit, puis il s'en va. Ok. Pourquoi il est aveugle? Comment il est devenu aveugle? Pourquoi il était au bord de cette route-là? Et pourquoi lui a eu confiance en Jésus? Etc. etc. Hein. Et. Parmi toutes ces rencontres, parce que je n'ai pas fait toutes les rencontres avec Jésus, bien sûr, dans les évangiles, hein, il y aura peut-être un tome 2, un tome 3, un tome 4, mais il y en a une d'entre elles qui m'a interpellé et qui m'a fait me sentir un peu mal à l'aise pendant un moment. C'est celle de celui qu'on appelle, en fait, je ne sais pas pourquoi, le jeune homme riche. Il n'y a aucun texte qui dit qu'il est jeune. L'homme riche, hein, qui était un chef de l'époque, hein. Et puis, cet homme qui vient voir Jésus et qui lui dit « Que dois-je faire, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Et puis, Jésus lui dit « Pourquoi tu m'appelles bon ? Il n'y a que Dieu qui est bon. » Mais il enchaîne et puis il lui dit « Voilà, hein, tu aimeras ton prochain, tu respectes tes parents, tous les commandements. » Et là, cet homme dit « Ah ben, super, j'ai déjà fait ça. » Et Jésus dit « Alors, il ne te manque qu'une chose, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. » Tu auras un trésor dans le ciel, et puis suis-moi. Et là, il y a cette phrase qui est horrible. Enfin, elle n'est pas horrible, mais elle est lourde. Hein, et le jeune homme repartit tout triste, car il avait de grands biens. Et c'est dans les 4 évangiles, et dans l'un d'entre eux, il est dit, Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Et voilà. Et cet homme, il s'en va tout triste. Alors, on sait que le problème, ce n'est pas la richesse, parce qu'il y avait plein de gens riches qui suivaient Jésus. Il n'aura jamais demandé de faire ça. Hein. Il a demandé à celui-là en particulier. Pour quelle raison? Et je ne sais pas exactement, mais c'était une rencontre ratée. Il y en a eu quelques-unes comme ça. Il y a beaucoup de rencontres positives. Hein. Les gens arrivent et puis, paf, paf, ils rencontrent Jésus et leur vie change du jour au lendemain. Et en méditant là-dessus, puis aussi parce que je suis en contact régulier avec des amis de presque d'enfance, mais en tout cas d'adolescence, de quand je suis venu à la foi, mes amis étaient un peu plus grands. Et puis je leur disais, je me rappelle qu'à cette époque-là, notre théologie tenait en une phrase. Une phrase. J'ai rencontré le Seigneur. Moi, je me rappelle, j'ai partagé ma foi à tous mes collègues de classe. Hein. Certains sont venus à la foi, d'ailleurs, d'autres se sont moqués, etc. Mais je ne savais pas dire grand-chose d'autre. Vous savez quoi? J'ai rencontré le Seigneur. Qui ça? Le Seigneur, qui? Ben, Jésus, quoi. Et puis, voilà, puis on racontait. Je l'ai rencontré. Alors, c'était un peu... Il a rencontré. Oui, on le sait, ils sont plusieurs. Mais c'était une réalité parce que ce n'était pas juste... des concepts sur le christianisme, c'était pas de l'éthique chrétienne, c'était pas de la morale chrétienne, et toutes ces choses sont très bonnes, hein, elles sont les conséquences après. Mais c'était, j'ai rencontré le Seigneur. Et puis c'est vrai que j'ai eu le privilège de vivre quelques années dans un moment de réveil où on n'avait rien fait pour ça. Hein. Il y avait des jeunes tous les samedis soirs qui faisaient 1 heure de stop, qui venaient taper à notre porte. Bonjour, oui, il paraît que dans cette maison on peut rencontrer le Seigneur. Ah, rentrez! On leur expliquait, ils étaient touchés, on les baptisait dans la baignoire, ils rentraient chez eux, ça recommençait. Presque 500 personnes comme ça en 8-9 ans. Quoi. Puis moi, je grandissais là-dedans et je pensais que c'était toujours comme ça, hein, que c'était normal. Puis un jour, ça s'est arrêté et puis il y a d'autres problèmes qui sont arrivés parce qu'on était humains. Et puis depuis, je cherche ça, mais je n'ai jamais revécu parce qu'en fait, ce n'est pas moi qui peux le fabriquer ou qui que ce soit. Et j'ai eu le privilège de vivre ça à un moment. Mais quand même, c'est quelque chose, je crois, qu'on doit se rappeler. Et j'aimerais parler sur... qu'on réfléchisse ensemble sur ce thème de la rencontre au travers des Écritures. Et pour ça, j'aimerais vous faire écouter un petit témoignage, une petite vidéo, je ne fais pas ça souvent. Et en fait, c'est un témoignage qui m'a touché parce qu'il est donné par une jeune femme qui vient d'un milieu qui n'est pas le nôtre, entre guillemets. On est chrétien, elle est chrétienne. Mais ça se passe dans le milieu catholique, qui n'est pas celui où on évolue tout le temps. Et ce témoignage, par sa fraîcheur, m'a fait beaucoup de bien. C'est un ami qui me l'avait communiqué. Je l'ai écouté deux fois. Je dis, tiens, ça serait une belle illustration. Alors, je vous propose juste qu'on l'écoute maintenant, et puis je vais continuer un tout petit peu après. Hein, Dieu utilise même les sourds, vous voyez, donc c'est bien. Non, mais ça m'a touché, ce témoignage, parce que justement, voilà, c'est pas notre contexte habituel, culturel, on va dire, chrétien, hein, mais c'est un très beau témoignage. Et puis, la question que ça me posait, j'en suis où, moi, de mes rencontres avec le Seigneur, hein, parce que, oui, il y a 30 ans, j'ai rencontré le Seigneur, c'est super, quoi, mais... Est-ce que j'ai autre chose à dire depuis? Bien sûr, oui, mais je crois que c'est important. Et ça me faisait penser ce témoignage, vous savez, dans l'évangile de Jean, je ne vais pas vous lire tout le chapitre, mais si vous le regardez, Jean 9 chez vous. À un moment, Jésus croise un aveugle, on lui amène un aveugle, plutôt on lui il le croise. Il est aveugle de naissance, donc on l'amène à Jésus. Jésus fait de la boue, lui met sur ses yeux, et puis il est guéri. Puis il dit à cet aveugle, va te laver les yeux, enfin enlever la boue, dans un réservoir particulier dans la ville. Il y va, il fait, et il voit. Puis là, il est tout content, ouais, je vois, je vois, je vois. Et puis bien sûr, on lui tombe dessus, qui c'est qui a fait ça, pourquoi, etc., ce Jésus. Mais tu sais, c'est pas possible qu'il t'ait guéri parce que c'est un pécheur. Et il a cette réponse qui est magnifique, hein, verset 25. S'il est un pécheur, je sais pas. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Hein? Et puis ça, je trouve ça magnifique parce que c'est. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, j'ai pas tout compris, je sais même pas qui c'est. Mais je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. Hein? Et je crois que c'est quelque chose qu'on a tous besoin. D'après ce que j'ai compris dans ce témoignage, c'était même pas une jeune fille qui croyait pas que Dieu existe, hein, elle était catholique, voilà. Mais c'est juste que Dieu existe et puis moi j'ai ma vie, mais il n'y a pas de connexion entre les deux. Et à un moment, il y a une rencontre qui fait que ah mais il s'intéresse à moi. Hein. Puis c'est pas juste émotionnel, c'est pas juste parce qu'il y avait du monde, ça y fait aussi. Hein, et puis des frissons dans le dos. Mais c'est juste qu'il y a, cette rencontre. Et je réfléchissais si on fait un survol et je vais le faire très 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 rapide sans aller dans les textes de l'histoire de la Bible. Hein. Ça commence avec une fois que Dieu a mis en place l'univers et tout ce qui est là. Il y a ce magnifique jardin. Et puis il y a les êtres humains qui sont là, les premiers qui sont là, et Dieu vient le soir avec la brise du soir pour discuter avec eux. Et là il y a le gros accident de notre histoire en tant qu'humain, l'homme et la femme et l'homme, il faut être poli hein, d'abord les femmes, la femme et l'homme qui décident de désobéir dans le sens où hein, ils mettent leur vie à eux avant, quoi. Ma façon de penser avant celle de Dieu a dit, mais moi je pense que. Et puis, il y a cette séparation qui se fait, et il y a ce texte assez dramatique. Hein. Donc, apparemment, Dieu avait l'habitude de passer les voir pour discuter le soir quand il faisait bon à la fraîche. Hein. Je ne sais pas s'il amenait du rosé, un peu de saucisson, non pas de saucisson, il était végétarien, mais quelques fruits secs. Hein. Et puis, il y a ce texte, Genèse 3:7. Donc leurs yeux s'ouvrirent, ils prirent conscience qu'ils étaient nus, ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble, s'enfirent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et la femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel appela l'homme et lui dit « Où es-tu ? » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que j'étais nu et je me suis caché. » Et ça c'est le début de notre histoire et c'est toujours la même histoire. Parce que on aimerait être parfait avant de rencontrer Dieu. Et puis quand on n'a pas envie de le rencontrer comme on est, alors on veut se couvrir avec des choses aussi ridicules que des feuilles de figuier, alors que Dieu veut nous rencontrer comme on est, il sait comme on est, il n'a pas de souci avec ça, il nous aime comme nous sommes, parce que ce n'est pas à cause de nous qu'il nous aime, c'est parce qu'il a choisi de le faire. Hein. Et voilà, et puis c'est le début d'une grande histoire d'amour, j'allais dire souvent « je t'aime moi non plus hein. ». Dieu aime l'humanité, mais ben, nous non. Et c'est intéressant de voir que ben, longtemps après, donc, il y a Abraham, il y a Jacob, ses descendants, etc. Et puis un jour, Dieu donne à Moïse des plans pour construire un truc bizarre, une espèce de boîte qu'il faut transporter avec des barres et des anneaux. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, regardez Indiana Jones, l'arche. Hein. Mais et surtout dans les traductions modernes, et c'est mieux traduit, hein, la tente où on mettait ça. Avant, on disait la tente d'assignation, mais ce n'est pas un joli mot, assignation. Hein. Une assignation, c'est un papier officiel qu'on reçoit qui nous dit qu'il faut aller quelque part. Ce n'est pas très bon. Et beaucoup de traductions modernes, maintenant, à juste titre, traduisent la tente de la rencontre. Ça, c'est mieux. Ce n'est pas là où je suis obligé d'aller parce qu'il y a un papier officiel qui m'oblige, mais c'est l'endroit où je peux aller pour rencontrer. Dans Exode 29, 42... Il dit, voici les sacrifices que vous offrirez au fil des générations, à l'entrée de la tente de rencontre devant l'Éternel. C'est là que je vous rencontrerai et que je parlerai. J'y rencontrerai les Israélites et ma gloire fera de cet endroit un lieu saint. Et puis un peu plus loin, Moïse prit la tente, la dressa à l'extérieur du camp, à une bonne distance, il l'appela tente de la rencontre. Celui qui voulait consulter l'Éternel devait sortir du camp pour se rendre à la tente de la rencontre. Et on voit que déjà là, dans l'Ancien Testament, qui était l'ombre des choses à venir, hein, il y avait le camp des Israélites, et la tente, elle était dehors. Pour rencontrer Dieu, il fallait le faire intentionnellement. Hein. On a distribué en début d'année ce petit document, il y en a encore un ici, hein, qui s'appelle « Une année intentionnelle ». Depuis le début de notre histoire où nos ancêtres ont eu peur de Dieu et se sont cachés parce qu'ils s'imaginaient que il ne fallait pas que Dieu les voie comme ils étaient. Hein. Dieu, lui, est toujours en attente de nous rencontrer. Il a dressé sa tente. Mais c'est à nous d'accepter. On n'a rien à faire. Et c'est pas, il ne faut pas le payer, il ne faut pas le rembourser, il ne faut pas être meilleur. Mais voilà, eux, ils devaient sortir du camp. Hein. C'est-à-dire que s'ils ne se disaient pas le matin, « Ah, j'aimerais entendre la voix de Dieu, j'ai envie de le rencontrer. » Alors je vais me lever, je vais m'habiller, je vais traverser le camp, je vais sortir. Là-bas, il y a la tente, je vais y aller et puis je vais faire ce qu'il faut. Hein. Ben, s'ils ne faisaient pas ça, ça ne se passait pas. Et puis, bien sûr, on sait que Jésus est venu et puis les choses ont changé, heureusement pour nous. On n'a plus besoin de faire du camping, de chercher une tente, hein, même si nous sommes dans l'attente de son retour, mais ça, c'est une autre chose. Et puis, Christ est là tout le temps, mais c'est la même chose. Si je ne décide pas d'eux, et puis si je ne consens pas à entendre sa voix, il ne va rien se passer. Et on arrive maintenant dans un autre texte, et je suis déjà à l'Apocalypse, vous avez vu, je commençais à la Genèse, je suis déjà à l'Apocalypse, on a lu toute la Bible ce matin. Et il y a ces lettres qui sont écrites aux églises, donc aux croyants, donc à nous. Hein. Et puis il y a ce passage qu'en général, moi j'ai, pendant des années, je l'ai entendu utiliser que pour les gens qui n'étaient pas croyants, mais c'est faux, c'est à des croyants que ça parle. Hein. Et je le lis depuis le début, Apocalypse 3, 14. Donc ça écrit à une des églises qui se trouvait dans la ville de Laodicée. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs afin que tu sois habillé, et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime, et donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Deux petites conditions qui ne sont pas des conditions de mérite. C'est des conditions que j'appelle directionnelles. Hein. Si quelqu'un entend ma voix et si quelqu'un ouvre la porte, hein, ce n'est pas un travail d'entendre et d'ouvrir une porte, mais d'accepter qu'il entre. Mais c'est quelque chose qu'on doit faire. Hein. C'est-à-dire qu'on doit le désirer et on doit l'accepter quand ça se passe. Et ben là, ça parle à des croyants. Hein. Alors on sait que si on a accepté Christ, Christ vit en nous, il n'est pas dehors, et puis il ne faut pas le faire revenir. C'est une image. Mais il faut que ces rencontres continuent d'avoir lieu dans nos vies. Pas dans le sens où, ah ben, si j'oublie de rencontrer Dieu, je vais aller en enfer. Non, ça c'est réglé depuis longtemps. Ce n'est pas ça. Mais je ne peux pas rester juste sur, il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 6 mois, j'ai rencontré Christ, et puis on se reverra au ciel. Et puis maintenant, j'ai des principes de morale, j'ai une éthique chrétienne, et puis je fais des choses, je fais des activités, pour Dieu, tout le monde est content. Oui, on doit faire des choses, oui, on doit s'engager, oui, on doit, etc., etc. Mais tout ça, ça doit être à chaque fois le résultat, en même temps le résultat, et le prélude pour une nouvelle rencontre. Parce que je rencontre Christ, et qu'il bouleverse ma vie, ça m'amène dans des actions. Et puis, ces actions-là font que ben, je vais me... Peut-être c'est compliqué, c'est difficile, et j'ai besoin de nouveau de le rencontrer. Et puis je le rencontre et ça m'amène plus loin. Et je crois que c'est quelque chose qu'on doit réaliser quand on peut avoir tendance à être découragé dans nos vies, ça tourne en rond, on ne sait plus trop, on en a marre de faire toujours les mêmes choses, etc. etc. C'est pas une nouvelle activité qui va faire que ça va aller mieux. C'est une rencontre avec le Seigneur. J'ai rencontré le patron et ma vie a été changée. Et là, on voit ben, ce qui, dans ce texte qui nous est dit là, et pour moi, ce texte, ça me faisait, justement, je l'ai mis en rapport avec cet homme riche qui va voir Jésus et la rencontre se passe mal. Il repart triste. Et je pense que c'est ça. Le problème, c'était pas le fait qu'il soit riche. C'est qu'à cause de ses richesses, il ne pensait pas que ce que Jésus avait à lui proposer avait de la valeur. Ouais, je veux bien la vie éternelle, mais bon, j'ai une vie où je maîtrise tout, et puis voilà, j'ai ci, j'ai ça, etc. Et puis Dieu dit, mais moi, je ne peux pas venir si tu ne m'invites pas. Enfin, voilà. Il faut que tu me fasses confiance si tu veux que je t'aide, sinon je ne peux pas. Quoi. Et puis, ben, il est reparti tout triste, parce qu'il n'était ni froid, ni brûlant. Pour la petite histoire, l'archéologie nous apprend que la ville de Laodicée, il n'y avait pas de source potable. Et en fait, il faisait venir, il y avait plusieurs façons de faire venir l'eau. Et puis l'une d'entre elles, c'était par une espèce d'aqueduc qui amenait l'eau de je ne sais plus trop où. Et puis cette eau, elle était ni fraîche ni chaude, elle était tiède quand elle arrivait. Et elle avait pris un goût avec, parce que l'aqueduc, ben voilà, c'était pas les conduites qu'on a aujourd'hui. Et puis elle était pas bonne à boire, quoi. Il fallait soit qu'il la fasse bouillir, soit au moins qu'il trouve un moyen de la rafraîchir. Hein. Mais parce qu'elle était cette espèce tiède, avait des goûts un peu burk, elle n'était pas buvable. Et c'est de ça que ça parle ici. Hein. On a besoin, voilà, d'être rafraîchi ou d'être réchauffé, comme on veut. C'est la même chose. Hein. Mais on ne peut pas se contenter juste, ah oui, Dieu existe, je sais, et puis maintenant, bah, le dimanche, je vais à l'église, et puis je fais un petit truc de temps en temps, et puis je suis engagé là et là. Non. Enfin, on peut aussi, bien sûr, on peut tout faire, on fait ce qu'on veut. Mais c'est triste dans un sens, parce qu'on passe à côté de tellement de choses meilleures que ça, et qui sont ces rencontres qui jalonnent nos vies, et c'est là qu'on reçoit l'énergie, qu'on reçoit la vision, la provision, tout ce qu'il faut pour faire les pas de plus. Hein. Et puis, c'est un cycle qui se répète comme ça. Et en fait, c'est les deux choses qui sont indispensables, autant dans notre vie personnelle que pour une vie communautaire. Quand je dis communautaire, pas tous habiter dans la même maison, hein, mais notre vie à nous en tant que communauté, on ne peut pas enlever les rencontres. Si je ne rencontre pas Christ, ben, je passe à côté. Si je ne rencontre pas les hommes et les femmes qui sont mes frères et sœurs, je passe à côté. On s'est souvent demandé... on a cette réflexion avec les responsables, avec Marc, avec d'autres. Qu'est-ce qu'on peut enlever dans notre vie d'église, et c'est toujours l'église, et qu'est-ce qui fait que si on enlève cette chose-là, c'est plus une église, c'est plus une communauté de croyants. Et en tout cas, une chose qui est sûre, c'est pas les seuls, hein, mais c'est que les rencontres, ça peut pas être enlevé. Bien sûr, rencontre avec Dieu, s'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Hein. Ces rencontres personnelles avec lui, mais rencontre aussi les uns avec les autres. écouter un message sur Internet, ben c'est bien des fois quand on ne peut pas, ou en plus autre chose, mais ou écouter de la musique sur n'importe où. Mais la rencontre, hein, et même pas juste être assis à côté, bonjour et partir, non. On a besoin de se rencontrer. Ça veut dire qu'on se voit les yeux dans les yeux, qu'on se parle, qu'on se dit des choses. Alors, on ne dit pas tout à tout le monde, on a nos vies privées, bien sûr, hein, c'est notre sujet. Mais on a besoin de ça, parce que sinon... C'est de la religion, c'est des, je sais pas, c'est une petite activité comme ça. Et puis honnêtement, on est dans une époque où il y a tellement d'autres choses qui nous sont proposées, qui sont plus stimulantes, que venir juste pour faire un devoir religieux, ben bof quoi, il y a mieux à faire. Mais si je viens parce que je sais que je vous rencontre, ça c'est pas remplaçable par autre chose. Si dans ces moments où on est ensemble, je rencontre Christ, ben aussi c'est pas remplaçable par autre chose. Et puis aussi il y a les moments où on le rencontre seul et les moments où on se rencontre en petit groupe. Et donc c'est pas du tout pour limiter ça à ce petit moment le dimanche matin. Ça c'est juste un petit bout. Mais on a besoin de rencontres. Et puis je vous laisse avec ça et puis je vais laisser Sam gérer ce petit moment. Peut-être ça serait bien si maintenant vous aviez autant des témoignages que vos propres interrogations, je ne sais pas, sur ce sujet. Comment vous vivez-vous vos rencontres avec Christ ?